Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez certainement déjà entendu sur cette chaîne le terme de dédollarisation. C'est un terme que Charles utilise, que nous utilisons depuis globalement à peu près surtout 2022 en gros, parce que cette guerre en Ukraine a été vraiment un tournant, notamment parce que il y avait le gel
Russe, qui était
des actifs
une
russes,
première imbécilité.
voilà, premièrement, et deuxièmement, la fermeture du système SWIFT vis-à-vis de la Russie, et donc la création ou l'utilisation, le recours à l'utilisation massive de d'autres plateformes de paiement qui sont beaucoup plus décentralisées. Maintenant, il y a une plateforme de paiement pour la Russie directement, il y a une plateforme de paiement pour la Chine, et puis les pays des BRICS sont en train de travailler sur une plateforme de paiement carrément pour tous ces pays-là, pour payer en monnaie locale, tout simplement. C'est pas forcément l'idée de remplacer le dollar par une autre monnaie, mais au moins d'utiliser les leurs, ce qui requiert tout un tas d'accords de swap, etc. On va en parler dans cette émission. Alors tout d'abord, avant de parler de ce qui se passe là en ce moment, la semaine dernière ou il y a 2 heures et demie, qu'est-ce que la dollarisation, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXe siècle pour qu'on arrive dans une économie mondialisée, globalisée, sous domination globale du dollar?
Ben, ce qui s'est passé, on en a souvent parlé ici, c'est que toute économie pour fonctionner a besoin d'énergie et qu'il y a eu un accord entre les États-Unis, qui étaient à l'époque le principal producteur de pétrole, et l'Arabie Saoudite, qui était là où tout allait se développer dans les années 45, 44, entre Franklin Roosevelt et Ibn Saud, qui était pour que toutes les transactions de l'Arabie Saoudite se passent en dollars,
Oui.
qui vendent leur pétrole en dehors de la US. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres pays qui étaient aussi producteurs de pétrole, ce qui fait que si vous vouliez acheter du pétrole, vous deviez passer en dollars. Donc, des pays comme l'Irak, l'Iran, etc., vendaient leur pétrole en dollars US.
Oui.
C'est-à-dire que vous, si vous vouliez l'acheter, ça voulait dire que la France avait besoin de dollars US pour acheter le
Bien
pétrole
sûr.
produit par l'Iran.
Bien sûr.
Ce qui voulait dire que le dollar avait en fait un monopole de fait sur le commerce de l'énergie. Et donc, tout le monde était obligé d'accumuler des dollars, c'est-à-dire d'avoir des excédents avec les États-Unis, parce que c'était la seule façon d'acquérir des dollars. Ou alors vous les empruntiez, mais à ce moment-là, vous vous retrouviez assez facilement dans la main des banques américaines. Donc, vous avez eu, jusqu'à la grande crise asiatique, et puis ensuite, 2008, 2009, 2012, qui ont été des dates importantes, la grande crise financière, puis 2012, la crise européenne, où on a vu petit à petit les États-Unis appesantir le contrôle sur le dollar.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du
Du
droit
dollar, du
américain.
droit américain. C'est-à-dire qu'ils ont dit, si la France et le Soudan font des opérations entre eux, comme nous on n'aime pas le Soudan, ben on condamnera la France, et donc en l'occurrence la BNP, à 9
Voilà.
milliards de dollars d'amende, ce qui était monstrueux. Et les Américains ont dit aux Français à ce moment-là, d'ailleurs je le sais de source sûre, ils ont dit, vous allez nous attaquer en justice, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez gagner, mais en attendant, pendant toute la durée du procès, la BNP ne pourra plus être à New York. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus avoir accès au dollar et faire le commerce international qui était financé en dollars. Donc, c'était une façon de dire, vous allez gagner, mais à ce moment-là, la BNP fait faillite, quoi.
Oui.
Donc, et puis arrive la guerre d'Ukraine, et à ce moment-là, la Russie, à qui on interdit d'avoir des comptes en dollars et des comptes en euros, vend son pétrole à l'Inde et se met à avoir des comptes en roupies.
Oui.
Et du
Qui se
coup,
retrouvent d'ailleurs en avoir trop,
ils
parce
se retrouvent en
qu'ils
avoir
ne sont
trop.
pas assez importateurs de produits indiens, et du coup ils ont plein de roupies, ils savent plus quoi en
Et
foutre.
c'est la première fois, mais ils peuvent les investir le cas échéant en achetant des actifs en Inde. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout le monde se met à. L'Arabie Saoudite se met à vendre du pétrole en yuan, et donc le monopole sur l'énergie du dollar se brise avec la guerre Ukraine que les États-Unis, à mon avis, ont déclenché pour empêcher la Russie de casser ce monopole. Donc ils sont arrivés exactement au résultat inverse de
Ouais.
celui qu'ils cherchaient.
Ouais. Bah oui, ils l'ont obligé à sortir de leur système de paiement. Forcément, ils allaient se mettre en place d'autres systèmes de
Mais
paiement. C'est
ce qui est étonnant, c'est que les Russes qui avaient venir le coup quand même, parce que ça faisait 10 ans qu'on les embêtait, avait déjà monté des systèmes de paiement. Donc,
Ouais.
alors la deuxième chose qu'il y avait, c'est donc il y avait l'énergie qui était payable en dollars. Et le deuxième, c'est toutes les transactions internationales passaient par un système centralisé, où si vous étiez par exemple en France, vous étiez obligé de vous acheter des choses, je sais pas, en Thaïlande, vous passiez par le dollar, puis ensuite vous payez le gars avec la barre en dollars,
Ouais.
puis lui il renvoyait des dollars et puis ils avaient envoyé des francs. Donc c'était un système centralisé qui était un peu ce qu'était un gros ordinateur dans les années 60, qui avait des écrans qui étaient branchés dessus. Donc tout le monde était branché, travaillait sur ordinateur, oui. Mais il y avait tout ça était contrôlé par un ordinateur.
Voilà.
Et moi, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe de l'ordinateur central à des multiples PC qui se parlent les uns aux autres et qui n'ont plus besoin d'ordinateur central. C'est ça la nouveauté.
On a un peu un ordinateur central à New York avec des terminaux qui sont partout dans le monde.
Oui, c'est ça.
Et là, maintenant, on n'a plus seulement des terminaux, on a des ordinateurs plus décentralisés. Et du coup, ça fait que... Parce que l'an dernier, il y avait quelques réunions des pays des BRICS, etc. Et certains ont dit, ils se réunissent pour remplacer le dollar par le yuan. Alors, le yuan est quand même en augmentation dans les transactions internationales, mais l'idée, c'est pas vraiment ça. C'est pas que tout le monde se mette à payer des trucs en yuan.
Bien sûr que non, ils en veulent surtout pas. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que là, vous étiez obligé de passer en dollars. Donc, vous avez besoin d'avoir des dollars, oui. Et tout passer par le dollar. Tandis qu'imaginez que la Chine et, l'Indonésie travaillent ensemble. Oui. Autrefois, elles auraient été obligées de passer par le dollar, donc d'acheter des dollars, de les vendre, d'avoir des réserves de dollars pour participer. Là, ce qui se passe, c'est que les deux banques centrales se mettent entre elles, discutent et disent, la banque centrale chinoise va dire à la banque centrale indonésienne, je vous fais un prêt de 30 milliards de dollars américains, oui. L'équivalent mais en monnaie chinoise, en yuan. Et puis la banque centrale indonésienne va dire à la banque centrale chinoise, je vous fais un prêt de l'équivalent de 30 milliards de dollars, mais cette fois-ci en roupia indonésienne.
Oui.
Donc les deux banques centrales ont un crédit, et tous les gars qui veulent exporter en Indonésie vont donc acheter les réserves à la banque centrale chinoise, paieront les gars dans la monnaie locale, oui. Et tous les gars qui veulent exporter de Chine vers, d'Indonésie vers la Chine feront... emprunteront de la Chine à leur monnaie centrale. Donc, à la place d'avoir, en quelque sorte, le chiffre d'affaires qui est couvert en dollars, qui était l'ancien système, tout devait passer par le dollar, là, vous avez simplement des prêts qui sont faits dans les deux monnaies, tout le commerce se passe dans les deux monnaies nationales, et simplement une fois tous les trois mois, les deux banques centrales se réunissent et décident comment on va solder la différence.
Mmh.
Et donc, ça veut dire que les besoins de dollars s'écroule.
Ouais, bien sûr.
Ce qu'on appelle en anglais les working capital, les fonds de roulement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de voir ce roulement.
Oui. Alors effectivement, revenons deux minutes sur la crise asiatique en 97.
Parce qu'ils étaient tous coincés. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une double erreur. Ils avaient bloqué leur taux de change contre le dollar.
Oui.
Par exemple, la Corée. La Thaïlande, etc. Ils avaient tous bloqué leur cours de... Ils avaient un taux de change fixe, soi-disant. Et ils avaient des taux d'intérêt plus élevés sur la Thaïlande que sur le dollar. Donc, tous les gros malins empruntaient des dollars à 3% ou à 5% et allaient investir en Thaïlande à 7 ou à 8, vous voyez. Donc,
bien sûr.
Et donc, ça faisait monter la masse monétaire, il n'y avait pas d'investissement, ça faisait baisser la productivité. Donc, à un moment ou à un autre, les balances commerciales deviennent négatives. Puis, elles commencent à bouffer dans la réserve de change. Et puis, quand il n'y a plus de réserve de change et que les balances commencent à être négatives, le système saute.
Ouais.
Et le système a sauté pendant l'été 1997, je crois. Ça a commencé en Thaïlande, puis en Corée, en Indonésie, puis toute l'Asie a sauté parce que toute l'Asie était organisée sans système.
Ouais.
Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très rigolo, c'est que on a vu le FMI arriver et forcer ces pays à vivre en dessous de leurs moyens, etc.
C'est ça. Donc ils se mettent à exporter massivement vers les États-Unis
pour avoir des réserves de change tellement importantes.
Pour ne jamais être aussi vulnérable.
Pour ne plus jamais être vulnérable comme il l'était avant. Ouais. Ce qui veut dire que maintenant, ces pays ont probablement 5000 milliards de dollars de réserves de change.
Ouais.
En excédent, puisque maintenant ils en ont plus besoin. Mais ce que je veux dire, qu'on a décrit avant, c'était le système de swap. Donc, ils ont plus besoin de ces 5000 milliards de dollars. La grande question pour les années qui viennent en finance, c'est qu'est-ce que les Asiatiques vont faire de leurs 5000 milliards de dollars dont ils ont plus besoin?
Ouais. Et sans tous ces accords de swap, il faut dire que c'est assez, inconfortable de faire du commerce avec son voisin si on pense que peut-être sa monnaie dans 6 mois, 1 an va s'effondrer.
Ouais.
Parce que à ce moment-là, les contrats, ils sont déjà faits.
Vous touchez votre monnaie, là, avec un accord de swap.
Voilà, exactement.
Vous recevez votre monnaie. C'est la banque centrale d'en face qui prend le risque, là.
Tout à fait.
Si vous avez un accord de swap, les exportateurs chinois, ils vont demander le paiement en yuan à la banque centrale chinoise, qui les paiera en yuan et qui tirera sur la ligne de crédit qu'elle a sur sur la Chine, si vous voulez. C'est, donc c'est un, on revient au monde qu'on avait avant, où dans le fond, on n'avait pas besoin de monnaie de réserve. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est le monde dans lequel on rentre, qui est un monde complètement décentralisé et basé sur des accords de swap entre banques centrales, c'est un monde dans lequel on n'a pas besoin de monnaie de réserve.
Ouais.
Le rôle de monnaie de réserve n'existe plus.
Ouais. Alors j'ai trouvé tout un tas d'accords de swap, notamment avec la Chine d'ailleurs.
Surtout,
ça a vraiment commencé à exploser en 2023. Mmh. Alors en novembre 2023, la Chine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de swap de devises avec 50 milliards de yuan, facilitant les paiements en monnaie locale, bien que la majorité reste en dollars. Mais bon, on a quand même de plus en plus de contrats là-dessus qui sont faits en yuan. D'ailleurs, petite parenthèse, on a du coup l'utilisation de monnaie locale. On a aussi l'utilisation de, comment dire, pas vraiment de proxy du dollar, mais enfin de monnaie neutre, mais qui suivent le dollar. Mmh. Par exemple, bon, dans la zone, on a déjà parlé du dollar de Hong Kong.
Il y a le dirham des
Émirats. D'ailleurs, justement, je disais tout à l'heure que lorsque la Russie avait accumulé beaucoup trop de roupies avec ses contrats énergétiques, l'Inde a commencé, du coup, à acheter son pétrole russe en dirham des Émirats.
Qui était probablement prêté par les dirhams de...
Voilà, exactement. Et après, il y a aussi des... Alors ça, je pense que c'est un petit peu plus sporadique, mais il y a aussi tout un tas d'accords commerciaux avec des stablecoins.
Mais c'est une façon de faciliter les paiements électroniques, mais oui. Ça ne change rien. C'est des gadgets. Oui. Mais par contre, un pays comme l'Inde, si vous voulez, on sait que les réserves d'or de l'Inde, du secteur privé... sont 4 fois supérieures aux réserves d'or des États-Unis officielles. Donc on sait qu'une grosse partie de l'or mondial est en Inde,
ouais.
Et l'un des grands défis de l'Inde dans les années qui viennent, c'est comment ils vont réussir à mobiliser ces réserves en or pour faire des investissements chez eux. Quoi. Donc ça va être un moment, j'en ai souvent parlé avec des dignitaires indiens qui sont venus nous voir, il faudrait qu'ils prennent compte. Il y avait un outil qui s'appelait la CNE 3%, par exemple. En France, il y a la Caisse nationale d'électricité qui empruntait à 3% et le dividende était indexé sur le prix du kilowattheure et le remboursement.
D'accord.
C'était un truc en termes réels. Et donc, la CNE 3%, ça a été un des éléments très importants du marché financier à Paris. Parce que vous pouviez acheter une espèce d'obligation indexée, mais qui est indexée sur le prix du kilowattheure. Et vous touchiez du 3%, donc du 3% réel en électricité, si je veux dire. Ouais. Ce serait peut-être une bonne chose à faire aujourd'hui. Vous offrez aux Indiens la possibilité d'avoir un truc indexé sur le prix de l'électricité, et peut-être avec remboursement en or, à l'arrivée, à la valeur, et comme ça, ils pourraient peut-être mobiliser cette immense épargne qui est un peu stérile en Inde. Ils ont une épargne gigantesque, mais qui est thésaurisée. Ça,
beaucoup d'accumulation
Donc, ça va être très intéressant les années qui viennent parce qu'on va voir apparaître un nouveau système qui sera complètement décentralisé. Tous ces PC partout, les banques centrales qui auront des swaps dans tous les sens. C'est-à-dire que l'ancien système était assez efficace, mais très fragile. Parce que s'il arrivait à péter au dollar comme en 2011, 2008, 2009, plus rien marché.
Ouais.
C'est un système très décentralisé, très antifragile, mais qui sera peut-être un peu plus coûteux.
Et puis, hors de portée des politiciens de Washington, parce que c'est ça aussi. Tant que c'est un outil, c'est un outil neutre, à la limite ça va. Sauf que là, bon, ça commence à faire beaucoup. Hein. Voilà, il y a une banque centrale avec le dollar, il y a un gouvernement, et puis bon, il y a des politiciens qui peuvent parfois aussi décider que du jour au lendemain, vous avez un peu une sale gueule. Donc bon.
Et puis vous avez, par exemple. Il était parfaitement légal pour la France de faire du commerce avec le Soudan dans les années 1900, avant la commandation, dans les années 2000. Mm-hmm. Mais les Américains étaient très fâchés contre le Soudan.
Ouais.
Donc ils ont dit presque rétroactivement, vous avez utilisé des dollars dans le commerce avec le Soudan.
Oui.
Ce qui est contraire à la législation américaine.
Ouais.
Et les Français auraient dû répondre, écoutez, vous êtes gentils, mais... Nous, on est souverain, donc on utilise cette monnaie, mais si vous voulez, bon... Mais comme ils ne pouvaient pas ne le dire, ils ne l'ont pas dit, puis les types n'ont pas compris, ils n'avaient pas le courage. Donc, en fait, le dollar américain, c'est est devenu un instrument de l'impérialisme américain à partir des débuts des années 2000. Avant ça, personne n'avait pensé que des dollars que j'avais
oui,
à mon nom.
En fait, c'est le Patriot Act qui change ce truc-là, oui, oui, tout à fait.
Patriot Act qui avait été fait parce que ils avaient bombardé les deux tours jumelles. Là.
Oui, voilà. Donc il était nécessaire de...
Donc il était nécessaire d'empêcher les gens de servir du dollar, quand même. Donc c'est un moment important parce que c'est tout l'empire américain reposait sur le contrôle qu'avaient les Américains de l'énergie, du paiement de l'énergie. Mmh. Et si quelqu'un s'y opposait, il était mort tout de suite, si vous voulez, Saddam Hussein, Kadhafi. Ils auraient été liquidés vite, tout de suite. Comment il s'appelait le type en Iran qui avait, dans les années 46, 47, 48, qui avait...
Mossadegh.
Avant le chat. Mossadegh, non ?
Oui, c'est
Mossadegh.
Ça. Ouais, le premier ministre.
Mossadegh, ben, lui aussi, il avait connu une fin assez rapide. Puis il y avait quelques pays latino-américains qui avaient aussi vu des changements de régime assez rapides. Et là, ben, maintenant, les États-Unis ont perdu leur instrument de pression sur le reste du monde. Mmh. Ce qui veut dire qu'autrefois, ils donnaient des dollars en paiement et les gens étaient très contents. Mais maintenant, de plus en plus, les gens qui vont vendre des choses aux États-Unis, ils vont demander des produits. Ils vont demander de la bouffe, ils vont demander des voitures. Ils vont, le commerce international, c'est que dans le fond, vous avez un voile monétaire, et puis vous vendez produit contre produit.
Bien sûr, c'est l'intermédiaire entre les produits.
C'est l'intermédiaire entre les produits. Et donc là, c'était génial pour les États-Unis parce qu'ils achetaient des belles voitures avec des bouts de papier vert qui ne coûtaient pas cher à faire.
Puis ça permettait de financer des déficits monstrueux.
Monstrueux, parce que c'était financé par l'extérieur qui avait besoin d'outils pour financer ça. Mais maintenant, ben des pays comme le Japon, la Chine, de plus en plus, ils vont demander des produits contre des produits.
Ouais. Et la tendance aujourd'hui, chez toutes ces banques centrales, c'est de vendre du dollar, vendre des obligations américaines.
Et d'acheter de l'or, par exemple.
Absolument. Et bon, là-dessus, ça permet de regarder un petit peu où on en est des réserves de change là-dessus. Puisque, bah, par exemple, la Chine, il y a quelques années, avait l'équivalent de 1300 milliards d'obligations américaines. Aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de 750 milliards.
Ils le vendent petit à petit, oui.
Ils le vendent petit à petit. Et alors, là, sur la page 5 de mon document, je montre les réserves de change qui incluent l'or dedans, d'ailleurs. Et donc, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années à peu près, on était à presque 70% de réserves de dollars dans les banques centrales. Aujourd'hui, on est à 40%. Et alors on a eu ce double phénomène sur les 3-4 dernières années où non seulement les banques centrales ont vendu des dollars pour acheter de l'or physique, mais en plus de ça la valeur de l'or a augmenté, donc combien même vous aviez par exemple 10% de vos réserves en 2022 par exemple en or, bah même si vous en avez pas acheté depuis, forcément vous avez davantage aujourd'hui que 10% puisque
vous avez
20-25, si le reste n'a pas bougé, vous êtes à peu près avant 25.
Donc la question, c'est aujourd'hui, compte tenu du système ancien, mettons que les États-Unis aient une dette vis-à-vis du reste du monde, de tous ces déficits qu'ils ont accumulés, qui a fait de la dette, qui sont un actif pour les autres pays du monde. Donc la question à laquelle il faut peut-être essayer de répondre, c'est de dire quel est le niveau où devrait être l'or pour que le stock d'or des États-Unis couvre la dette qu'ils ont émis depuis 30 ans.
Ouais.
Ben, j'ai fait des calculs derrière une enveloppe, c'est à peu près 18 000 dollars l'once.
Oui.
on aurait dit ça à 18 000 quand c'était à 1 000, on aurait eu l'air idiot.
Oui.
Mais c'était toujours la même chose. Là, oui. On est quand même à 5 000.
Oui.
Donc, il y a déjà une partie du chemin qui a été fait, quand même.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça paraît idiot, mais enfin, qui, il y a 3-4 ans, on aurait dit qu'on allait passer de 1 000 à 5 000.
Oui, c'est vrai.
On savait que ça allait monter, mais...
C'est vrai que ça monte très très vite. Et bon, après, il y a encore à estimer exactement quelle quantité d'or ils ont, parce que ça aussi, on avait entendu parler de l'audit de Fornox. Bon, depuis, on n'en a plus trop entendu parler.
Voilà. On savait qu'il allait y avoir un audit de Fornox.
Oui.
Et puis...
Depuis à peu près un an, là, mais c'est un peu plus calme, hein, la question. Elle
dans
est
mon
pas
avis,
trop
dans Fornox, c'est surtout des toiles d'araignée aujourd'hui. Je sais pas où il est passé l'or, mais...
Ouais. On va peut-être faire monter le cours du tungstène pour faire croire qu'on a un peu d'or.
Et ça, c'est... Et alors, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est que du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que la quasi-totalité de ces pays en Asie, ils avaient une contrainte du commerce extérieur qui était monstrueuse. Ils devaient toujours être en excédent, sinon leur monnaie était immédiatement attaquée. Bon. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel il y a ces swaps, etc., il n'y a plus de contraintes du commerce extérieur. Et ils peuvent régler leur swap, leur coût, avec des actifs qu'ils ont déjà, par exemple des dollars, des bonds en dollars, ou des bonds, ou de l'or, etc. Donc ça veut dire que c'est 1 milliard, c'est 5 milliards de gens, je ne sais plus combien, qui vivent dans le cercle de Valéry Pierris dont on vous a parlé. Ils n'ont plus de contraintes du commerce extérieur. Ils ont des réserves massives, ça veut dire une épargne massive. Donc il va y avoir un boom inimaginable. Il n'y a plus de raison de monter les taux pour empêcher de...
Oui. C'est-à-dire que là, autrefois, c'était pas forcément un thème très, très populaire d'investir sur tous les marchés émergents ou ces marchés asiatiques, notamment parce à cause de cette situation par rapport
au dollar. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir des comptes courants excédentaires, sinon ils n'avaient pas des dollars et donc ils étaient obligés de s'arrêter tout le temps. Donc c'était des stop and go.
C'est ça.
Tandis que maintenant, comme ils se vendent des uns aux autres et qu'ils font le solde de leur monnaie, ils n'ont plus besoin de dollars, ils n'ont plus besoin de rien.
Un système beaucoup plus résilient.
Beaucoup plus résilient, et ça veut dire que ils n'ont plus obligé de monter les taux parce qu'ils n'ont plus de dollars, ils s'en foutent. Et donc on va voir. Et ça veut dire aussi que leur système de production n'a plus besoin d'avoir des excédents avec les États-Unis, c'est-à-dire de favoriser les ventes aux États-Unis par rapport aux ventes aux Indonésiens à côté. Les ventes iront vers où c'est le plus rentable. C'est peut-être l'Indonésien plutôt que les États-Unis. Donc ça va faire un boom extraordinaire. Et donc cette épargne, à la place d'être utilisée dans nos marchés obligataires, va être utilisée à développer leurs infrastructures.
Ouais.
Et donc ce boom extraordinaire ne peut pas se passer sans une hausse des taux considérable. Je sais pas si nos pays peuvent supporter une hausse des taux considérable.
Oui.
Des taux réels.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ils sont déjà plus élevés qu'il y a quelques années. Je pense qu'on est quand même sur une tendance plutôt haussière sur nos pays.
Mais on sait bien que si les taux longs arrivent en France à 4,5 ou à 5, on saute.
Ouais. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vraiment on saute ou est-ce qu'on
va
encore...
Il faudra du temps, parce qu'il faut 5 ou 6 ans.
Des entours.
Parce que la duration moyenne de la dette française, c'est 7 ans. Donc en 3 ans et demi, vous aujourd'hui, on est entré dans la période où, dans le fond, ce qu'on avait emprunté il y a 7 ans à zéro, c'est en train d'être remplacé par de la dette à 3,5.
Donc, c'est pour ça que
ça fait une dérive.
Le paiement des intérêts de la dette
cesse de
monter.
Donc, vous dites, si la dette est de 3 500 milliards d'euros et si on paye à les 3% sur l'ensemble de la dette, à l'arrivée des 7 ans, 3 500 multiplié 3, 3 fois 5, 15, 3 fois 3, 9 fait un 10, ça vous fait à peu près un service de la dette de 104 milliards de dollars contre 50 aujourd'hui.
Oui.
Donc, on sait, toutes choses égales par ailleurs, que dans les 3 ans et demi qui viennent, on va prendre 50 milliards dans les dents qui viendront du service de la dette. C'est déjà dans la boîte.
Ça va très vite. Hein.
Donc maintenant, si on passe à 4,5 ou à 5, vous rajoutez à chaque fois 20 ou 30 ou 40 milliards de dollars. Et je ne vois pas comment on pourrait passer un service de la dette de 200 milliards, puisqu'il y en a 100 milliards qui doivent sortir immédiatement pour payer les intérêts aux étrangers. C'est-à-dire que nos comptes courants, à la place d'un déficit de 1%, il deviendra un déficit de 4 ou 5. Donc on retrouve avec un déficit budgétaire de 5, un déficit extérieur de 5. Et qui va nous prêter?
Ça, je ne sais pas.
C'est pas eux, puisqu'ils sont en train de bâtir des routes et des ponts.
Oui. Oui, c'est ce que vous disiez justement par rapport à tous ceux qui détiennent de la dette française et qui pourraient investir sur des pays dans le coin. Typiquement, on parlait de l'Iran l'autre jour, mais bon, il y a pas que l'Iran, il y a aussi tout ce qui se passe justement dans ce monde asiatique qui est en train de se développer à toute vitesse.
Bâtir Beyrouth.
Oui, voilà. Ou même parfois, je vois par du bouche à oreille des copains qui vont au Vietnam, des pays comme ça, et qui me disent, le Vietnam, c'est pas ce que c'était il y a 20 ans, quoi. Ça va vraiment parfois très très vite. Et pareil, si on pense ça fait un peu de temps maintenant, mais le développement de Singapour a été extrêmement rapide. Enfin voilà, ils peuvent se passer des choses.
Parce qu'ils font pas trop de bêtises et ils ont pas. On le voit très bien dans par exemple la gestion de la Chine aujourd'hui. Ils donnent pas de droits. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de dépenser du pognon, ils vont refaire peut-être un peu plus de ponts, un peu plus de routes, j'en sais rien. Le cas échéant, ils vont prêter de l'argent au pays d'à côté qui achètera des produits en Chine, ce qui est une autre façon de relancer la croissance. Mais, pour ainsi dire, jamais, ils ne donnent des droits sociaux.
Ouais.
Parce qu'ils savent que c'est par les droits sociaux que nous, on a coulé. Donc, ils veulent bien donner des droits ponctuels, mais rien qui entraîne une perte de leur compétitivité.
Oui.
Donc, on voit très bien la façon dont ça va se passer. C'est que nous, on a emprunté pour payer des droits sociaux.
Oui. Ça, c'est aussi une question, effectivement, c'est la nature des déficits, la nature de la dette.
Ben oui.
Typiquement, c'est, si on reprend, par exemple, à quelle vitesse les États-Unis sont endettés dans les années 40, mais c'était pour produire un appareil productif absolument
Et puis, il faut
gigantesque.
Pour la guerre.
Voilà,
pour faire la guerre, ils ont gagné en 3 ans. Hein.
Voilà, exactement. Et puis, bon, cette guerre, en plus de ça, ça leur a permis justement de mobiliser énormément d'or chez tous les pays alliés.
Oh, tout le monde avait dû payer en or.
Voilà, tout le monde a dû payer en or. Donc, ils ressortent en 45, ils ont 70% des réserves d'or mondiales. Et aussi, après, ils se retrouvent avec un appareil industriel énorme. Donc, cette fois-ci, plus forcément pour produire des obus ou des chars par million, mais pour produire des voitures, tout un tas de trucs. Ils ont 50% de la capacité industrielle mondiale en 1945. Donc voilà, c'est pas pour
Et donc ils prêtent de l'argent
pour du social.
Ça s'appelait le plan Marshall pour avec la dollar qu'on leur a prêté, qu'ils achètent des machines outils etc. aux États-Unis pour refaire démarrer leurs économies, ce qui était très malin. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que tous ces pays qui étaient en excédent des comptes courants vont se mettre à faire du commerce les uns avec les autres. Et aujourd'hui, vous regardez par exemple les exportations de la Chine vers la zone de Valéry Piri. Je crois que ça a un taux de croissance qui est 2 fois supérieur au reste du monde. C'est-à-dire que vous voyez bien que le cœur nucléaire de la croissance aujourd'hui, ben, il est autour de Hong Kong. Quoi.
Oui.
Et vous savez aussi que la monnaie des BRICS, ça va être le dollar de Hong Kong, parce que tout le monde va faire des transactions en dollar de Hong Kong. Parce que la beauté du dollar de Hong Kong, c'est qu'il est convertible en dollar américain, librement, et qu'il est convertible librement en yuan.
Oui.
Donc on me dit, le yuan n'est pas convertible. Je leur dis, ouh, vous ne connaissez pas les Chinois.
Oui. Ouais, bien sûr. Et je me disais encore une fois par rapport aux sanctions politiques qu'il y a sur le dollar. Bon, alors maintenant effectivement ils sont un peu calmés puisque il y a plus grand monde à sanctionner finalement. Mais je me dis toute cette accumulation de capital qu'il y a eu aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont un pays plutôt libre d'un point de vue capitalistique, qu'il y a une place boursière.
Et parce qu'ils ont connu une énorme période de croissance schumpeterienne. C'est-à-dire que vous ne trouviez acheter des valeurs d'Internet, Nvidia et tout qu'aux États-Unis parce qu'il n'y avait que qui faisait ça. Maintenant, il y a peut-être la Chine va sortir autre chose, ou peut-être on va avoir une croissance ricardienne gigantesque qui se passera en Asie, et à ce moment-là, si vous voulez, les gens n'ont pas besoin d'aller chercher des valeurs schumpeteriennes, ils vont acheter directement ceux qui font les routes et les ponts, dont un certain nombre de sociétés françaises d'ailleurs.
Oui,
donc, si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a eu 20 ans de croissance schumpeterienne menée par les États-Unis. Donc le dollar avait tendance à rester aux États-Unis parce que c'était le seul endroit où il pouvait être investi.
Ouais.
Mais si on passe dans une période de croissance ricardienne, ils n'ont aucune raison de rester aux États-Unis.
Ouais. Et puis il y a une autre réflexion que je me fais aussi, c'est on a discuté un peu de la nature politique du dollar, c'est-à-dire le fait que ça devenait de plus en plus instable ou imprévisible pour des pays d'avoir du dollar, parce qu'on se dit si on peut me les confisquer du jour au lendemain, c'est qu'ils sont pas vraiment à moi. Du coup, j'ai pas forcément intérêt à en avoir, parce que si j'achète de l'or, peut-être que non seulement ça va se réévaluer par rapport au dollar, mais qu'en plus de ça, ce sera vraiment à moi pour le coup.
Vous avez qu'il y a tout un tas d'économistes allemands qui disent qu'une partie importante des réserves de change allemandes sont en or à Fornox et qui demandent le retour en Allemagne de ces réserves de change en disant il n'y a aucune raison qu'ils soient à Fornox.
Ah oui, c'est malin, tiens. Ouais.
Ah bah tiens.
Oui. Oui, parce qu'effectivement, avec l'or, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de force militaire qui fait.
Non. Ce que je dis toujours, et puis l'or dans les pays quand l'or se barre d'un pays, il vaut mieux pas acheter ses obligations. Ça veut dire qu'il n'est pas compétitif. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une fois de plus, on est dans cette espèce de démantèlement des pièces de l'Empire américain. Donc là, on a vu la partie militaire, c'est en train de partir en digue-digue avec l'Ukraine. Là, on voit bien. Maintenant, il y a la partie monétaire qui est en train aussi de partir. Donc, on voit. Donc il est très difficile pour l'Empire américain de rester au pouvoir alors qu'il n'a plus ni les instruments militaires, ni les instruments technologiques de supériorité, ni les instruments monétaires. Donc on voit bien, c'est la fin de l'Empire américain.
Mais alors est-ce que ça va pas peut-être se concentrer juste ailleurs ? C'est-à-dire que par exemple, nous, je sais pas, l'Europe, avant qu'on abandonne le dollar, je pense qu'il va y avoir encore un certain temps.
Il n'y a aucune raison d'avoir créé l'euro, puisque pour qu'on puisse faire du commerce dans notre propre monnaie, si j'ose dire, si on n'est pas que ça devienne Donc on n'a pas besoin du dollar. Le vrai problème, c'est le, pour l'Europe, c'est pas le paiement de l'énergie, c'est l'accès à l'énergie.
Oui.
Là, c'est autre chose, si vous voulez, c'est qu'on s'est coupé de l'accès normal à l'énergie. Ouais. Si vous allez jusqu'au fond des choses, vous dites, bon, logiquement, maintenant, compte tenu de ce qui se passe, l'Allemagne devrait sortir de l'OTAN et de l'euro et rejoindre la Russie. L'étape suivante logique, c'est pour l'Allemagne. On avait créé l'Europe pour empêcher que l'Europe, la France et l'Allemagne se mettent sur la gueule. C'était l'idée première. Maintenant, on voit bien que la Russie n'a plus besoin de l'Europe. L'Allemagne n'a plus besoin de l'Europe si elle se met avec la Russie. Donc logiquement, une des suites logiques de ce qui se passe, ce serait que l'Allemagne, ce soit l'Allemagne qui décide de sortir de l'euro, qu'elle en a plein le dos.
Mais là, on n'y est pas actuellement quand même. Surtout,
je
réfléchis.
Très vite, vous savez, parce que quand vous lisez le programme du parti de droite,
l'AFD,
L'AFD, ils en sont pas loin. Ils en sont pas loin.
Ils veulent faire un référendum sur l'Union européenne, effectivement.
Ils veulent faire un référendum sur l'Union européenne. Ils voient pas du tout pourquoi on les empêche d'importer de l'énergie d'Allemagne, de Russie, qui a toujours été. Ça fait 300 ans qu'ils importent de l'énergie de Russie, donc pourquoi on les empêche d'un seul coup? Pour plaire aux Américains, mais est-ce qu'on a besoin de 300 000 hommes américains en Allemagne aujourd'hui? Peut-être pas. Donc, logiquement, l'une des structures juridiques qu'avaient amené les États-Unis, c'était l'OTAN. Ben, si l'Empire disparaît, l'OTAN disparaît, quoi.
Oui. Effectivement, Donald Trump, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça, l'OTAN.
Vance, il a dit, nous, ça ne nous intéresse pas du tout.
Oui, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les pays qui composent l'OTAN ne sont pas intéressants ou importants d'un point de vue commercial ou politique ou quoi que ce soit, diplomatique, mais c'est que juste, lui, ce qu'il veut, c'est procéder au cas par cas et pas tellement procéder
plus,
par l'intermédiaire d'une
beaucoup,
organisation.
Ce qu'il embête beaucoup, un type comme Vance, ou même, c'est que les États-Unis sont fondés, qu'on le veuille ou non, sur la liberté d'expression, l'amendement numéro 1, je crois, de la Constitution américaine. Le Congrès ne fera pas de loi pour empêcher les gens de s'exprimer. Et que de partout en Europe, ils voient maintenant naître la censure. Et disent, moi, je ne vais pas soutenir militairement des gars qui soutiennent la censure. Quoi.
Ouais.
Et Vance le dit, n'ayez pas peur de vos peuples. C'est-à-dire, n'ayez pas peur du Rassemblement National, n'ayez pas peur de l'AFD, n'ayez pas peur de...
Oui, bah on voit bien qu'ils penchent en faveur plutôt des droites nationales dans les différents pays.
Bah, ils penchent en fonction, et c'est pas qu'ils penchent tellement en fonction de ça, c'est que ceux qu'ils voient être empêchés de parler, c'est les droites nationales. Donc, les victimes de la censure, c'est pas le Parti communiste.
Non, pas tellement.
C'est toujours.
C'est-à-dire que Musk, il soutient, il a soutenu l'AFD,
il soutient la liberté de parler.
Oui.
C'est pas qu'il soutient, c'est qu'aujourd'hui, l'AFD est le seul en Allemagne à défendre la liberté de parler.
Oui, après, il soutient aussi d'un point de vue politique et même financier. C'est-à-dire qu'il fait des...
Ben oui, parce qu'on les empêche de parler.
Oui. Mais
ce que je veux dire, c'est que si...
Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il a un peu une préférence pour le programme de ces partis-là?
Non, il n'a pas le programme. Il dit simplement, s'il y a des gens qu'on empêche de parler, c'est inacceptable.
Oui.
Donc je le soutiens.
Oui.
Sinon, il n'aura rien à dire. Il s'en fout, ça. C'est-à-dire que nous, les Européens, on dit c'est les Américains qui veulent nous empêcher de faire ce qu'on veut. Non, non. C'est les Américains qui disent il n'y aura... nos alliés ne peuvent être que ceux, surtout les alliés européens, que ceux qui sont pour la liberté de parole pour tout le monde.
Oui, bah d'ailleurs, on a bien vu, il y a un shift diplomatique avec cette nouvelle administration Trump. Auparavant, à chaque fois, c'était un intermédiaire, c'était Biden et von der Leyen. Aujourd'hui, bon, von der Leyen, elle est un peu sur le bas-côté quand même.
Bah ouais, et puis en plus, quelle légitimité elle a.
Bah, aucune. Elle a très peu de légitimité politique et aucune légitimité populaire. Personne ne l'aime en Europe. Je veux dire, c'est vraiment la technocrate choisie par d'autres technocrates. Bon, à partir de là, compliqué de faire accepter.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle a été désignée par des accords, par exemple franco-allemands, plus les autres qui ont dit c'est elle qui sera notre candidate. Mais la plupart de ces partis qui ont désigné von der Leyen sont détestés par les populations locales et européenne. Donc, vous avez quelqu'un, ça me fait toujours rigoler, c'est quand on me dit, l'ONU a voté, je sais pas, elle est contre Israël à tout hasard, parce qu'ils ont voté 250 fois contre Israël depuis une dizaine d'années. Et c'est le seul qui a été tellement condamné, c'est Israël. Et ils me disent donc, je leur dis, attendez une seconde, il y a 70% des gens à l'ONU qui ne sont pas des démocraties.
Ouais.
Donc si vous avez une majorité de 70%.
Oui, je ne sais pas s'ils représentent. D'ailleurs, même ceux qui
ça
sont.
Ça ne peut pas être démocratique. Oui, si vous avez 70% de dictature qui vote pour vous embêter, ça ne veut pas dire que c'est démocratique.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a 70% des dictatures qui sont contre vous, c'est tout.
Oui.
Mais on présente ça comme un vote démocratique. Mais non. Je crois que le patron des droits de l'homme ou du droit des femmes à l'ONU, je me demande si c'est pas l'Afghanistan. Mmh. Ou l'Iran.
Oui, il y a eu un truc comme ça, oui.
Oui, donc ce que je veux dire par là, c'est cette histoire de la majorité fait la démocratie. Non. Et ce que disent les Américains, c'est non. La démocratie, ça déclare, ça se décide pays par pays.
Oui.
Ou vous êtes démocratique ou vous l'êtes pas.
Effectivement. Et pour revenir sur le dollar aussi, je me disais simplement quelque chose, c'est que, bon, alors, les États-Unis sont confrontés à une dette quand même assez importante, 125% du PIB, 38 trillions de dollars.
Mais il y en a une partie importante qui est chez eux, une partie d'autres.
Oui.
Je crois qu'il y a à peu près un tiers qui est à l'extérieur.
Uh-huh. Ça augmente quand même de 1000 milliards tous les 100 jours.
C'est monstrueux.
Y a un déficit monstrueux qui est de plus de 6% du PIB. Les intérêts de la dette, aujourd'hui, pèsent plus de 1100 milliards de dollars. Donc, bon, tout ça, c'est...
Et la dette est à un an.
Oui.
C'est pas comme en France où c'est à 7 ans. C'est-à-dire, si les taux courts montent,
c'est tout de suite. Ça se répercute beaucoup plus vite, effectivement.
C'est pour ça que Trump arrête pas de gueuler pour avoir des taux plus bas. Quoi.
Oui, bah oui, évidemment. Et... on a vraiment l'impression que aujourd'hui la stratégie de l'administration Trump, c'est se sortir de ce truc-là simplement en sacrifiant le dollar, c'est-à-dire en dévaluant le dollar, faire en sorte que le dollar soit beaucoup moins cher.
Oui, il y a ça, et surtout il y a on peut vous vendre des actifs pas chers. Si vous voulez faire des usines aux États-Unis, il y a les dollars qui sont là pour vous les prêter. Donc
oui,
on voit
bien
qu'ils essayent d'échanger des dollars improductifs à l'extérieur contre des dollars productifs à l'intérieur.
Ouais,
mais je sais pas si ça va marcher, ça, parce qu'à un moment ou à un autre, le dollar peut partir en chute libre, quoi.
Oui, bien sûr.
Ça peut se déclencher d'un seul coup.
Bien sûr, mais après, est-ce que ça permet pas aussi de limiter les dépenses, puisque bon, on a le secteur privé qui, lui, bon, peut s'adapter à une baisse de 10-15% de la valeur du dollar, par exemple. Ça a été le cas d'ailleurs cette année, en 2025. C'est un peu le grand fait. C'est
mais pas contre l'Asie.
Non, pas contre l'Asie.
Pas contre l'Asie. C'est-à-dire que le dollar a dévalué contre l'Europe.
Ouais.
Qui a besoin de ça, qui avait besoin de ça comme un trou dans la tête, d'ailleurs. Donc, parce que je vous signale qu'il n'y a personne qui est responsable de la politique de taux de change en Europe. La Banque centrale, ça ne fait pas partie de son métier. Et autrefois, c'était les différentes banques, les différents ministères des Finances qui s'occupaient du taux de change vis-à-vis de la monnaie. Mais maintenant, personne n'est responsable du taux de change de l'euro, ce qui est rigolo, quand même. Donc, l'euro est une monnaie facile à manipuler à la hausse. Donc, ils n'ont pas réussi à manipuler les monnaies asiatiques à la hausse, mais ils ont réussi à envoyer l'euro à la hausse. Donc la question, c'est, vous avez 5000 milliards de dollars qui sont en dehors des États-Unis, en dehors des États-Unis. Ils vont devoir rentrer aux États-Unis pour avoir une contre-valeur. Ils peuvent acheter de la terre, ils peuvent acheter des actions, ils peuvent acheter des obligations, ils peuvent acheter de l'immeuble. Mais tout ça, si vous voulez, c'est... Qu'est-ce qui se passe s'ils le font pas? Qu'est-ce que vont faire les 5000 mecs? Les 5000 milliards, ils vont probablement acheter de l'or. Mais ça vous ramène au problème précédent, parce que le gars qui reçoit les dollars...
Là, c'est vraiment ce qui se passe sur ces derniers jours. Et peut-être on en parlera cette semaine, d'ailleurs, sur l'université de l'épargne. C'est évidemment la hausse de l'or. Bon, nous, on en a dans le portefeuille, on est très contents. Mais il y a aussi la hausse de l'argent.
Toutes les matières premières mondes, ce qui semble indiquer
que
le boom que j'attends en Asie a commencé. Parce que si le cuivre monte... C'est parce qu'il y a une demande de cuivre, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a une demande économique. Donc, quand l'or monte tout seul, c'est que les gens ont la trouille. Quand l'or se met à monter en meute avec toutes les autres matières premières, ça veut dire que le boom a commencé. Donc, à ce moment-là, que les taux d'intérêt à 3%, ça veut dire, c'est pas possible.
Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que, en Chine, l'argent se négociait à un prix encore plus élevé qu'aux États-Unis. 123 dollars contre 109, je crois, enfin, en équivalent.
Il faut savoir que tout le système chinois jusqu'en 1900 à peu près, c'était un étalon argent. C'est-à-dire qu'ils soldaient leurs trucs internationaux avec l'argent. L'or, ça faisait pas partie, il y en avait pas assez. Donc les Chinois ont toujours eu un biais cognitif assez fort en faveur de l'argent.
Ouais. D'accord, c'est intéressant. Et donc voilà, on voit tous ces métaux précieux qui sont en pleine augmentation, et on sent qu'on est vraiment dans une fuite en avant de, bon, de toute façon...
C'est la fuite contre la monnaie.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le dollar de toute façon va se dévaluer sur le long terme, que ce soit extrêmement rapide ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais l'idée c'est un peu finalement comme ce qui s'est passé en Turquie, où la lire s'est dévaluée,
elle ne vaut plus rien. Quelque part, nous on a dit aux gens, faut avoir un portefeuille turc, hein.
C'est ça. Alors, un portefeuille turc, c'est 50% actions, 50% or. Ouais.
Bon, vous dites, vous achetez 50% de Microsoft, allez, ils sont dans le monde entier, et puis 50% d'or.
Oui. Bah, ça, c'est sûr, les Américains, s'ils ont ce portefeuille depuis 3-4 ans, là, je crois que ça va.
En France, allez, vous prenez 50% de Schneider, Air Liquide, je sais pas quoi, 50% d'or, et là aussi, vous avez été parfaitement tranquille.
Oui, vous êtes bien gâté, effectivement.
Alors la seule question, c'était celle du cash en yen, et on est en train d'y répondre. J'en ai parlé ce matin, et on est en train de dire il faut passer du cash en yen aux obligations.
Aux obligations longues, oui, effectivement.
Voilà. Donc si vous voulez, nous, c'est pas quelque chose qui nous surprend, cette dédollarisation. On a même préparé les portefeuilles pour tout ça. On essaye de la suivre et de la jouer du mieux qu'on peut. Alors de temps en temps, on rate une marche comme avec le yen cash, mais ça c'est par rapport au reste, ça n'a que d'importance. Oui. Mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir d'obligations dans les monnaies de la CDE, quoi. Pour remplacer ça par de l'or.
Effectivement.
C'était ça, la décision importante, c'était celle-là.
Que des actifs, pas des contrats.
Que des actifs, pas des contrats. Mm-hmm.
Ce qui veut pas dire que tous ces pays vont aller forcément au tapis.
Ah non, pas du tout, mais ça veut dire simplement que vous n'êtes pas payé pour prêter de l'argent à ces pays-là.
Oui. Ça, effectivement, on est d'accord. Bon, ben je crois qu'on peut terminer cette émission.
Grosso modo, ce qu'on essayait de vous dire, c'est que cette dédollarisation, non seulement elle n'est pas finie, mais elle s'accélère.
Ouais, tout à fait. Là, je vais pas prendre la peine de citer tout un tas d'accords de swap, mais il y en a un paquet dans les 6 derniers mois, par exemple avec la Chine. Ils en ont même fait un assez gros d'ailleurs avec l'Europe. Enfin voilà, c'est tout un tas de, on va dire, de petits signaux faibles qui ne font que confirmer un énorme signal. Qui est la dédollarisation.
J'ai besoin de dollars pour acheter des bagnoles en Chine.
Voilà. C'est ça. Pour acheter du pétrole, du gaz.
Du pétrole, du gaz, des bagnoles en Chine, de l'immobilier à Hong Kong. Là, j'ai pas besoin de dollars.
Effectivement.
Voilà. Ça change ?
Non, c'est sûr, ça change. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie pour votre fidélité. Peut-être on a des petits nouveaux d'ailleurs qui viennent de l'émission de Légende. J'en sais rien. Je sais pas encore. Ce serait sympathique, si c'est le cas, ravi de faire votre connaissance. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut de Liberté et sur l'Université de l'Épargne.
Merci beaucoup.